C'est mon privilège ce matin de vous apporter la parole de Dieu. Et si possible, j'aimerais qu'on puisse déjà afficher la présentation PowerPoint qui va... J'ai une question pour vous en commençant ce matin. Des différents items dont l'agencement de couleurs n'a manifestement pas été destiné d'avance, de tous ces items-là, quel est le point en commun? Pardon? La dépendance. Oh, hey, t'es proche. Tu vas très, très, très proche, mais c'est un petit peu plus large que ça. Divertissement. Ouais, dans un sens, paranormal. J'ai entendu Internet, oui, ça englobe tout ça. La personne qui a dit divertissement, je crois, félicitations, c'est exactement le mot que je cherchais. Divertissement. Et donc, le sujet commun qui rassemble chacun de ces items-là, c'est le fait que chacun, soit de ces jeux-là, de ces films-là, de ces activités-là, si on voit Facebook, ont été conçus professionnellement pour retenir notre attention. Et j'invente rien. Par exemple, Facebook, par exemple, Candy Crush, il y a réellement des ingénieurs informatiques qui se sont penchés sur la question: que peut-on faire pour que l'utilisateur trouve son séjour, par exemple, sur Facebook, très agréable? Et c'est donc des formes de divertissement qui sont conçues pour retenir facilement notre attention, pour nous divertir facilement, pour faire en sorte que rapidement on puisse y trouver quelque chose de bien. Je suis vraiment pas là pour dénoncer quelques utilisations que vous puissiez en faire. C'est vous face à Dieu, c'est pas mal en soi, mais il y a une certaine sagesse à avoir là-dedans. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui contraste radicalement avec ce genre de divertissement-là. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un ancien livre législatif du Proche-Orient ancien qui date de 4000 ans avant Jésus-Christ, quoique les opinions sont différentes, le Lévitique. Si vous êtes venu ce matin en ayant hâte de rencontrer vos frères et sœurs en Christ, en ayant hâte d'entendre parler de la parole de Dieu et que vous avez flippé dans le petit bulletin à la dernière page pour dire c'est quoi qu'il va parler, le prédicateur en avant aujourd'hui, et que vous avez lu Lévitique 17, 1 à 9, vous êtes peut-être dit « Oh, au moins c'est juste 45 à 50 minutes. » Hein? Bon. Et c'est donc cette opinion-là habituellement qu'on a des lois de l'Ancien Testament. Un paquet de textes, un peu de rab qui s'applique plus ou moins à ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a deux, trois spots, c'est marqué, aimez-vous les uns les autres, ça c'est encourageant, et Jésus répète. Mais dans le fond, on est aussi bien d'aller dans le Nouveau Testament. Puis par là, je veux pas dénigrer quelques opinions que vous avez de la loi de l'Ancien Testament. Par contre, ce que je vous encourage avec moi à faire ce matin, c'est à creuser dans ce texte-là pour réaliser que non, contrairement à Candy Crush, contrairement à Facebook, on n'y trouvera pas une joie instantanée, mais avec un effort supplémentaire. Ce que Lévitique va nous permettre de découvrir, c'est qu'il y a des vérités qui s'y cachent, puis en fait, elles ne s'y cachent pas très bien, il suffit de creuser un peu pour les découvrir. Et ces vérités-là impactent nos vies encore aujourd'hui. Ces vérités-là sont applicables encore aujourd'hui, sont même répétées directement dans le Nouveau Testament, parce que ce sont encore des vérités qui sont d'actualité, et que n'importe qui se donne la peine de lire et d'étudier sérieusement Lévitique va y trouver une joie encore plus grande qu'à travers Snapchat ou Facebook. On pourrait passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. La prochaine diapositive va être celle qui va rester tout le tour long de l'enseignement et qui concerne les points qu'on va aborder aujourd'hui. Le texte, donc, concerne Lévitique 17, 1 à 9, pour ceux qui veulent déjà tourner dans le texte. La vérité principale que je voudrais que tout le monde en tire aujourd'hui et qu'on va explorer à travers le passage est la suivante. Dieu réclame le centre de ta vie. Dieu réclame pas la périphérie, pas le côté, pas une fois de temps en temps. Dieu réclame le centre de ta vie. Et c'est donc à travers quatre différents points qu'on va pouvoir approfondir cette vérité-là. Premièrement, on va parler du Lévitique et de sa place dans la Bible. Donc, quelle est sa place dans la Bible et quel est aussi son rôle, puisqu'on a le Nouveau Testament aujourd'hui et que le Lévitique n'a nécessairement pas le même rôle qu'à l'époque de l'Ancien Testament. Ensuite, on va regarder pourquoi est-ce que Dieu réclamait des sacrifices et quel est le rôle de ces sacrifices-là. Et je prétends pas en faire la théologie exhaustive, là, vous comprendrez qu'on regarde 5 minutes ensemble. On va passer des points qui sont vrais, qui explorent pas tout la théologie du sacrifice, mais certains points fondamentaux au moins. Ensuite, on va poursuivre avec l'Éternel, le seul au sommet. Et finalement, on va finir avec la patience, quand la patience de Dieu a une fin. Lévitique, donc 17, 1 à 9. Avant de lire le texte, par contre, il y a certaines choses que je veux préciser face au Lévitique, certains points importants qui est important de comprendre quand on lit le Lévitique. Le Lévitique est un livre, est en fait le tome numéro 3 d'une série de 5 livres qui forment le Pentateuque. N'importe qui irait pas dans une librairie puis dire « Moi, je veux lire Le Seigneur des Anneaux, qui est en 3 tomes. Je vais commencer par le tome numéro 3. » Puis je vais le lire indépendamment des autres. La personne ne comprendra rien. Et probablement que ce qu'elle va en tirer, oui, ça va être bien, mais généralement, ça va être détaché de l'histoire générale. Il y a beaucoup de choses que la personne ne comprendra pas. C'est exactement la même chose avec le Lévitique. Des 5 tomes du Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est le numéro 3. Ce qui fait que si on ne comprend pas ce que le numéro 1, Genèse, et le numéro 2, Exode, dit avant, c'est très facile de prendre le Lévitique puis de dire c'est un paquet de lois appliquées. Puis essentiellement, ce que c'est le christianisme, c'est d'appliquer des lois un peu étranges par bout, je vous le concède, là, et ça fait finalement pas beaucoup de sens. Puis Dieu semble distant dans le Lévitique. Dieu semble un genre de Dieu méchant qui demande des choses cruelles puis étranges. Dès qu'on n'est pas capable de situer le Lévitique dans son contexte, dans le contexte de tout le Pentateuque, on perd son sens. C'est pour ça que ce que je tiens à mentionner, ce que je tiens à survoler brièvement, c'est l'histoire du Pentateuque. On commence avec la Genèse. Genèse 1, Dieu crée. Dieu initie une création de laquelle il prend soin, qu'il chérit et qu'il aime. À travers cette création-là, on a l'être humain qui trahit Dieu et qui introduit dans le monde ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le mal. Dieu répond à cette offense-là, pas en se vengeant, mais il répond en initiant le pardon, en initiant une réconciliation à travers une alliance qu'il va former avec Abraham. On est à Genèse 12. Joël a prêché sur cette alliance-là durant plusieurs semaines, il y a quelques semaines, quelques mois, avant de partir en Ukraine. Dieu initie donc une démarche de pardon face aux hommes qui l'ont trahi. Et ce qu'il dit, c'est « Je promets donc à l'humanité de me faire un peuple de qui je vais prendre soin et qui je vais donner une éthique de vie particulière. Et ce peuple-là va me servir d'intermédiaire pour ramener tout le monde autour de moi. » Dieu accomplit cette promesse-là. Il dit donc à son peuple, il est temps de sortir d'Égypte. Le peuple, pendant ce temps-là, est passé en esclavage en Égypte. Dieu sort son peuple de l'esclavage et les amène vers une terre qu'il leur avait promis de donner, dans laquelle il allait concrétiser cette promesse-là d'un peuple qui allait être abondant et d'un peuple qui allait ramener toute nation autour de Dieu, du seul et unique. Là, on est rendu à l'Exode. Et rendu à l'Exode, là, ce que Dieu dit, c'est « Bon, voilà, j'ai créé chacun de vous. Je prends soin de chacun de vous, chaque jour. Je vous ai fait une promesse de réconciliation malgré le fait que vous m'avez trahi. J'ai concrétisé cette promesse-là. Les bottines ont suivi babine, comme on dit. Et là, ce que je vous demande, c'est de répondre à toutes ces initiatives d'amour, toutes ces initiatives de grâce, toutes ces initiatives de réconciliation en changeant vos vies et en obéissant au Dieu qui vous a créé. Et ça, c'est Exode 20 jusqu'à Deutéronome 34. Et ça inclut donc tout le Lévitique. Tout le Lévitique prend son rôle dans cette pensée-là. C'est une réponse de reconnaissance du Juif de l'Ancien Testament à un Dieu qui l'a créé, à un Dieu qui prend soin de lui, à un Dieu qui a initié une démarche de pardon malgré le mal qu'il a fait, et un Dieu qui a concrétisé cette promesse de pardon-là, cette promesse d'abondance-là. Le Juif de l'Ancien Testament est donc appelé à répondre à Dieu en changeant la façon dont il vit. Et là, il y a donc des lois et des lois et des lois qui sont données dans l'Ancien Testament. Une erreur commune qui est faite, c'est de dire, bon, ben là, dans la loi, il dit, et on va en prendre une juste pour le plaisir. Lévitique 19, versets 9 et 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Essentiellement, ce que Dieu dit, c'est que toi, tu vas avoir un champ, par exemple. Tu vas avoir une vigne, par exemple. Pour un champ, qu'on va assumer étant carré, tu ne le récolteras pas au complet. Tu vas littéralement tourner les coins ronds quand tu vas le récolter, ce qui va laisser des espaces qui ne sont pas cultivés que tu vas laisser aux pauvres. Ce que ça ne veut pas dire, c'est que chacun des chrétiens qui est ici doit s'acheter soit une vigne, soit un champ, et que de ce champ-là doit donc le cultiver et espérer que les pauvres partent des villes, parce que c'est là que majoritairement ils vivent, jusqu'aux campagnes pour aller glaner ce qui reste et s'en nourrir, retourner en ville. Ça, c'est pas ce qui devrait être compris. Mais il y a un principe derrière cette loi-là, qui est la générosité et la compassion envers les nécessiteux. Tu as des ressources en abondance, par exemple un champ, par exemple une vigne. De ces ressources-là, Dieu te permet d'en tirer un fruit duquel tu bénéficies. Prends donc une partie de ce fruit-là et donne-le à ceux qui en ont besoin. Parce que Dieu a un cœur pour les nécessiteux. Il veut aussi que tu aies un cœur pour les nécessiteux. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Il y a une application concrète de la générosité, de la compassion envers son prochain qui est donnée à travers le fait que c'est un champ. Prends-en donc une partie, donne-le donc à ton voisin qui en a besoin. Dans l'Ancien Testament, à cette époque-là. Mais ce principe-là, aujourd'hui, se reflète tout autrement. Le centre d'aide en personnes en difficulté, la banque alimentaire qu'on a, sont des applications concrètes de Lévitique 19, 9 et 10. Ce qui est le Lévitique, c'est un paquet de principes importants aux yeux de Dieu qui sont appliqués dans un contexte concret, en Israël, dans un monde agricole, 2000 ans avant Jésus-Christ. L'erreur qu'il ne faut donc pas faire, c'est de prendre ces lois-là et de dire « faut que ça s'applique exactement aujourd'hui ». Ce qui doit s'appliquer aujourd'hui, ce n'est pas l'application de la loi là, qui est faite dans Lévitique, mais c'est le principe qui est communiqué à travers cette application-là. Par exemple, la générosité et par exemple, une vision particulière que Dieu veut qu'on ait de lui, qu'on va explorer dans le présent texte. On va donc le lire, Lévitique 17, versets 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir en oblation à l'Éternel, devant le tabernacle de l'Éternel, il sera demandé compte du sang à cet homme. Il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les Israélites, au lieu d'immoler leurs sacrifices dans la campagne, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et qu'ils offrent à l'Éternel des sacrifices de communion. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, il brûlera les graisses, qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Ils n'immoleront plus leurs sacrifices aux boucs, avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident au milieu d'eux offre un holocauste ou un sacrifice et ne l'amène pas à la tente de la rencontre pour le sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Dans ce passage-là, qu'on va passer en section, on est capable de reconnaître un message qui est assez simple en soi. Dans la première section, versets 1 jusqu'à 4, l'Éternel ordonne que l'homme qui égorge une bête, de l'amener à l'Éternel. Et s'il ne fait pas, il va être retranché de son peuple. On va voir tout ce que ça veut dire, ça, plus loin. Ensuite, dans la deuxième section, l'Éternel va dire, et là je le paraphrase, « Cela est dit afin qu'Israël arrête pour toujours d'immoler aux idoles. Plutôt, ils apporteront leur sacrifice au sacrificateur qui leur présentera à Dieu selon la loi. » Et finalement, les versets 8 à 9, recommunique ce principe-là en l'appliquant un petit peu plus largement aux immigrants et aux étrangers en Israël en disant « Donc, si quelqu'un offre un sacrifice sans l'amener à l'Éternel, il sera retranché de son peuple. » Le message central de ce passage-là est donc assez simple. Dieu communique l'importance d'apporter à l'Éternel le sacrifice offert, faute de quoi il y aura retranchement de l'individu hors de son peuple. Et on va donc passer en revue chacun des versets de ce texte-là pour être capable de comprendre quelles sont les vérités que Dieu veut qu'on y comprenne aujourd'hui. Dans les versets 1 et 2, Dieu s'adresse pas juste aux prêtres, pas juste au peuple, mais c'est un des rares passages dans la loi où Dieu s'adresse, dans Lévitique en fait, où Dieu s'adresse au peuple et aux prêtres. Et déjà là, on peut en déduire quelque chose d'assez significatif. Parce que ce qu'il va leur dire après ça, c'est l'exclusivité des sacrifices m'est due à moi. Et là, il ne le dit pas juste au peuple, il ne le dit pas juste aux prêtres, il le dit aux deux. Pourquoi? Pour démontrer que la sainteté et le dévouement unique à Dieu, c'est pas juste la job des prêtres de l'Ancien Testament. C'est pas juste la job du peuple. C'est pas juste la job des chrétiens. C'est pas juste la job des pasteurs. C'est la job individuellement de chacun de nous face à Dieu. Au verset 3 jusqu'au verset 6, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va décrire finalement le genre de sacrifice qu'il souhaite pour son peuple. Comment il souhaite que les choses se passent. Et ce que Dieu va donc faire, c'est qu'il va aborder le sujet des sacrifices. Pourquoi est-ce que Dieu a donné, deuxième point, pourquoi est-ce que Dieu a donné des sacrifices dans l'Ancien Testament? Pourquoi est-ce que Dieu voulait le sacrifice animal? Et là, je le redis, je prétends pas couvrir l'ensemble de toutes les raisons. Il y en a quatre au moins essentielles qu'il faut comprendre face au texte présent. Premièrement, vous vous rappelez, pour ceux qui lisent la Bible un peu ou qui ont ne serait-ce qu'un background un petit peu face au christianisme, vous allez comprendre que dans Genèse 1, Genèse 2, Dieu habitait avec son peuple. Dieu habitait au milieu de son peuple. La trahison de l'homme envers Dieu a lieu et Dieu quitte la présence directe des êtres humains. Ça ne veut pas dire qu'il est loin dans le ciel et qu'on ne peut pas le contacter, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il est présent aussi concrètement que dans Genèse 1 et Genèse 2. Il y a une séparation qui s'est créée entre l'homme et Dieu. Et là, ce que Dieu fait à travers la loi, c'est qu'il dit, « OK, je vais venir réhabiter à nouveau au milieu de vous, dans un endroit qu'on va appeler le temple ou, bon, dans le désert, dans le Lévitique précisément, on appelle ça le camp, qui est un temple temporaire, déplaçable. Comme une genre de maison quand on va en camping, on a une tente qui est une maison temporaire. C'est exactement le même principe. Pendant le séjour au désert, il y avait une sorte de tente qui était dédiée à Dieu, dans laquelle Dieu habitait. Aussi concrètement que ça puisse être, c'était donc, moi j'habite à telle adresse, 1, 2, 3, chemin d'Emmaüs. Dieu habite au 1, 2, 4, chemin d'Emmaüs. C'est aussi concret que ça. Il y avait vraiment un endroit physique dans lequel l'Israélite pouvait entrer en contact avec Dieu. Ce que Dieu faisait à travers ça, c'est qu'il disait, « Non seulement tu m'as trahi, non seulement je vais répondre par le pardon, mais je vais répondre en réconciliant l'état des choses tel qu'il était à l'origine. J'étais au milieu de toi à l'origine. Tu ne m'as pas voulu au milieu de toi. Tu as réalisé la gaffe que tu as fait. Je vais revenir au milieu de toi. » Ça se faisait par le camp. Donc, il y avait un endroit physique où Dieu demeurait au milieu de son peuple. Un des rôles des sacrifices, c'était de garder Dieu au milieu du peuple. Dieu ne pouvait pas tolérer l'impureté, le mal, le péché. Et donc, si quelqu'un commettait le mal, comme c'est arrivé des millions de fois, la présence même de Dieu au milieu du peuple était menacée. Tant et aussi longtemps qu'il n'y aurait pas ce moyen-là de garder Dieu au milieu de nous, de nous garder finalement un peu tolérable pour Dieu, pour que Dieu ne s'en aille pas, ne quitte pas concrètement la présence au milieu du peuple. Là donc est le rôle des sacrifices. De faire en sorte que Dieu puisse demeurer au milieu de nous malgré le mal qu'on fait. Un deuxième rôle, c'est un peu le revers de la médaille, de permettre aux Juifs de rester dans le peuple au milieu duquel Dieu habite. Parce que le mal que faisait le Juif, le mal que faisait le membre du peuple d'Israël, le menaçait d'être exclu du peuple, le menaçait soit d'exécution ou soit d'être chassé loin du peuple. Ce qui fait qu'il y avait deux options si quelqu'un faisait le mal. Soit cette personne-là s'endurcissait dans le mal qu'elle faisait, s'obstinait à le faire et donc était chassée ou carrément exécutée. Ou cette personne-là, à travers les sacrifices, trouvait pardon aux yeux de l'Éternel et pouvait rester au milieu d'un peuple où Dieu régnait. Voyez-vous encore là le moyen de grâce que Dieu procure? Tu as fait le mal, tu es condamnable objectivement, mais je prévois un moyen pour te pardonner. Maintenant, tu as un choix. Si tu saisis ce moyen-là, tant mieux, tu es invité à rester au milieu du peuple de Dieu. Si tu ne choisis pas ce moyen-là, il y a une exclusion. Si tu choisis de t'endurcir dans le mal que tu fais, il y a une exclusion. Voyez-vous le moyen de grâce que Dieu permet pour que son peuple puisse rester en contact avec lui? Et là, je le dis, bon, avec certaines réserves, c'est un peu comme si Dieu se pilait dessus, entre guillemets, là, pour permettre à son peuple d'aller vers lui. Il en fait énormément pour permettre à son peuple d'aller vers lui. C'est donc les deux premières raisons. C'est pourquoi les sacrifices, le système sacrificiel avait été mis en place pour permettre à Dieu de rester au milieu de son peuple et pour permettre à l'individu de rester dans le peuple où Dieu était le centre. Une troisième raison, c'est pour permettre à quiconque de vivre dans le contexte. Ça, c'est ma deuxième raison. Ma troisième raison, faire comprendre à l'Israélite la gravité du péché. En campagne israélite, il n'y avait pas de grande ville comme aujourd'hui. On est une genre de banlieue, si on veut, où on a peu de contact avec les animaux. S'il y a des gens qui ont des contacts avec les animaux, c'est qu'ils vivent directement en campagne et souvent parce qu'ils en vivent, soit que c'est des fermiers ou soit que c'est des gens qui ont un métier spécifique qui nécessite ça. Mais généralement, on a peu de contact avec énormément d'animaux, sauf le chat ou le chien à maison, c'est pas mal le seul contact qu'on a. Par contre, en Israël, les choses ne se passaient pas comme ça. N'importe qui vivait en Israël devait vivre de l'agriculture ou d'un des fruits de l'élevage. Il y avait beaucoup d'élevage en Israël. Et l'élevage n'était pas fait pour la viande. C'était premièrement très rare qu'on mangeait de la viande en Israël. C'était un luxe peu permis et très luxueux. Pourquoi? Parce que le bétail que n'importe quel éleveur élevait, il voulait en tirer un bénéfice. Les agneaux pour la laine, les vaches, les chèvres pour le lait. Ce qui fait que de tuer un animal pour le manger, ça équivalait un peu à sacrifier un de tes employés. Ça équivalait à diminuer ta santé économique. Faire en sorte que tu puisses produire moins de biens que tu pourrais ensuite vendre en Israël pour d'autres. Donc, c'était exceptionnel de tuer un animal en dehors du système sacrificiel. Ce qui fait que le Juif commun n'était pas très habitué à voir des animaux mourir sans arrêt. Plus que ça encore, il y a certains de ces animaux-là qui étaient assez attachants quand même. On parle de la docilité des vaches. Une vache, c'est drôle à voir les enfants probablement qui s'en amusaient. C'est docile, c'est calme une vache. Une chèvre, c'est assez amusant aussi. C'est drôle à voir Alex et cornes, son petit pinch. Les agneaux, il y a-t-il de quoi de plus beau, plus pur qu'un petit agneau? Plus docile, passif, sans vice, sans malice. Qu'est-ce qui se passait quand l'Israélite avait la culpabilité au cœur et au moment où il avait aussi le couteau du sacrifice entre les mains? Qu'est-ce qui se passait au moment où le petit agneau, tout blanc, tout pur, sans défaut, était à ses côtés, docile, naïf, devant l'autel du sacrifice, se doutant pas une seconde de ce qui allait se produire quelques instants après? Qu'est-ce qui se passait dans le cœur du Juif quand il réalisait qu'à cause qu'il s'était écouté, à cause qu'il s'était obstiné, à cause qu'il avait désobéi à l'Éternel, la petite bête qui n'a rien demandé au monde, naïve, allait se voir bord en bord passer un couteau pour être vidé de son sang. Et là, je suis intentionnellement graphique pour vous montrer que c'était percutant pour un juif de sacrifier. C'était pas une routine agréable. C'était un événement qui était percutant. De voir le petit agneau, tout naïf, perdre sa vie, s'éteindre à cause du mal que j'avais fait pour payer à ma place à cause de l'obstinement de mon cœur. C'était des êtres vivants, des êtres pleins de vie, le fun à côtoyer, qu'on était obligé de faire endurer le mal qu'on faisait. Et c'était le seul moyen d'être pardonné. Ça avait un effet qui était percutant pour le Juif. Ça avait l'effet de lui faire réaliser que le pardon et la grâce ont un prix. On dit souvent que le pardon et la grâce sont gratuits. Et c'est vrai. En Jésus, qui a payé un peu à l'image d'un agneau pur, qui était aussi quelqu'un, Jésus, qui est agréable à côtoyer, que n'importe qui ici aurait trouvé plus que sympathique, aurait trouvé approchable, aurait trouvé amical, aurait trouvé attachant, aurait trouvé accueillant, qui meurt massacré sur une croix pour subir à notre place toutes les conséquences du mal qu'on a fait. Ça a aussi de quoi de percutant. Et le point, c'était de dire que oui, la grâce est gratuite, oui, elle est accessible pour quiconque la veut, pour quiconque vient à Jésus pour demander pardon, c'est vrai. Mais en même temps, ça a un prix immense, un prix moral, de dire que je passe un couteau bord en bord, la gorge d'un agneau qui n'a rien fait, mais aussi que le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui est d'une valeur immense pour le Père, doit subir ça. Et ça a un prix, ça a une lourdeur, ça coûte quelque chose d'être pardonné. Maintenant, dans nos vies, à nous, est-ce qu'on devrait être surpris du fait que c'est difficile de pardonner, du fait que c'est difficile de faire grâce? Tu sais que c'est difficile quand quelque chose nous arrive, quand quelqu'un pêche contre nous, quand quelqu'un fait du mal contre nous, parle dans notre dos, nous trahit, nous ment. Pensez-vous qu'on devrait s'étonner du fait que c'est difficile de pardonner? Pourtant, toute la Bible nous montre que c'est difficile, que ça coûte quelque chose. Pas que ce n'est pas faisable. Jésus nous accueille à lui et nous dit, viens à moi pour que je dépose sur toi mon joug qui est doux, mon fardeau qui est léger et que je prenne toutes tes lourdeurs pour les faire disparaître, c'est vrai, mais ça a un certain lot de difficultés, pardonnez, ça a un certain lot, ça a un prix à payer qui est important. On ne devrait pas se surprendre dans nos vies, c'est difficile de pardonner. C'est difficile de marcher dans le pardon et de faire grâce aux gens, parce que ça a son lot de difficultés aussi. Je suis encore sur le point sur les sacrifices. La quatrième raison qui explique ce pourquoi Dieu a mis un système sacrificiel en place, c'est pour comprendre aussi, pour lui faire comprendre en fait le coût de son engagement. Et là, on va explorer tous ensemble, c'est assez intéressant quand même, le principe qui est comment est-ce qu'un éleveur établissait ses ratios mâle-femelle? Comment est-ce que ça marche l'élevage? Si tu es un éleveur, normalement, tu ne veux pas avoir 50% mâle, 50% femelle. Pourquoi? Parce qu'il y a du couraillage d'un bétail, puis tu ne peux pas te ramasser avec un troupeau qui va être incontrôlable. Ça, c'est une des choses, en termes de nombre. Ce qui fait qu'en Israël, et même aujourd'hui, la pratique demeure, il y a un ratio mâle-femelle à garder pour que tu puisses contrôler la croissance de ton troupeau. Dépendamment des races, dépendamment du type d'animal, dépendamment de l'âge aussi. Si je prends par exemple un bœuf. Un bœuf d'un an va avoir un ratio 1 mâle pour 15 femelles. Un bœuf de 2 ans, de mémoire, c'est 1 mâle pour 30 femelles. 3 ans, 1 mâle pour 40 femelles. Et les ratios pour à peu près tous les animaux, dépendamment de l'approche d'élevage, varient toujours autour de ça. J'ai l'air d'un gars qui connaît ça? Pas du tout. C'est juste que j'ai lu des documents gouvernementaux là-dessus, qui est assez intéressant, mais j'ai aucune pratique d'élevage encore, du tout. Mais quand même, avant que je le dise, vous me croyez, hein? C'est vrai? Hein? Bon, et voilà. Donc, les ratios d'élevage variaient toujours à 1 mâle, 15 femelles, jusqu'à 1 mâle, 40 femelles. Donc, il y avait au minimum 15 fois plus de femelles que de mâles dans un troupeau. Rappelez-vous, la santé économique d'un juif dépend de son troupeau. Si c'est pas de l'agriculture, c'est toujours de son troupeau. Et à la limite même, la santé économique de toute la nation juive dépend aussi des troupeaux, parce que la laine que je prends pour faire mes manteaux, ben je les vends à quelqu'un qui en a besoin. Et si j'ai moins de laine, les gens ont quand même besoin de cette laine-là, et il y en a moins, ça crée un manque, ça crée une demande, ça crée un besoin qui n'est pas comblé. Même chose pour le lait, même chose pour autre chose aussi. Ce qui fait donc que la santé économique des Juifs dépendait directement des troupeaux, dépendait directement de l'élevage. Dans plusieurs sacrifices importants de l'Ancien Testament, particulièrement du Lévitique, c'est un mâle qui est demandé pour être sacrifié. Lévitique 4, Lévitique 9, Lévitique 14, Lévitique 16, Lévitique 23 nous montrent que un sacrifice pour le péché ou un sacrifice de culpabilité, finalement pour effacer la culpabilité, demandait une bête mâle. Ce qui faisait qu'à chaque fois qu'un juif sacrifiait un mâle, d'un côté, il risquait sa santé économique, sa prospérité, l'agrandissement de ses troupeaux. Ça venait jouer sur la corde de la sécurité assez régulièrement. Ça faisait comprendre aux Juifs deux choses. Si t'es pour faire partie du peuple de Dieu, assume donc que Dieu sait où ce qui s'en va. Puis quand il demande l'obéissance, c'est pour une raison précise. Puis c'est parce qu'en arrière de ça, il connaît assez ta réalité pour être capable de répondre à tes besoins aussi. Tant qu'à suivre Dieu, assume donc, comme il le dit de nombreuses fois dans la Bible, assume donc qu'il sait où ce qui s'en va. C'est une des choses. La deuxième chose, ça montrait aux Juifs que le sacrifice, ou en fait le dévouement qu'ils vouaient à l'Éternel, la consécration qu'ils donnaient à l'Éternel, elle était coûteuse. Ça coûte quelque chose de suivre le Seigneur. De faire partie du peuple de Dieu n'était pas simplement une game d'acquis ou ce que Dieu bénit sans arrêt, que je peux m'asseoir sur mes lauriers. Puis que c'est correct comme ça. Au niveau de la réalité du peuple juif, autant au niveau que de la réalité du peuple chrétien, de vouloir suivre Dieu sérieusement, ça coûte quelque chose. De vouloir être juste devant Dieu, c'est-à-dire de vouloir avoir ses péchés, sa culpabilité effacée, te coûtait un mâle à chaque fois. Ça coûtait cher. C'était de valeur un mâle. Si t'en as pour un mâle pour 15 fois plus de femelles, ils valent quelque chose, tes mâles. C'était coûteux. Et aujourd'hui, on ne devrait pas se surprendre que la même réalité devrait habiter nos vies. Il y a un passage dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc, chapitre 14, verset 26, je crois, je l'ai ici. 14, 26, où ce que Jésus dit, c'est la phrase suivante. « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Quiconque vient à moi doit me préférer, finalement, à sa propre vie et à son propre contexte de vie et aux privilèges qui l'entourent. Sinon quoi, il ne peut pas être mon disciple. » On ne devrait pas se surprendre que la même réalité qui était de sacrifier un mâle à l'époque concerne nos vies également. Ça coûte quelque chose de vouloir suivre sérieusement le Seigneur à titre de disciple. Ça va demander à certains d'entre vous de laisser de côté des loisirs pour avoir le temps nécessaire pour contribuer à la mission que Dieu nous a laissée, qui est d'annoncer l'Évangile puis de faire des nations des disciples. Ça va demander de mettre du temps de côté, de laisser de côté des loisirs. Ça va demander de mettre de l'argent de côté. Qu'on aime moins ça, hein, quand ça touche à nos piastres, là. Ça va demander de mettre de l'argent de côté pour envoyer des gens à mission à l'international pour qu'eux puissent annoncer à d'autres, à des peuples qui ne sont pas facilement accessibles, l'Évangile pour qu'eux aussi puissent trouver un espoir en Jésus-Christ. Ça va demander du temps. Ça va demander ne serait-ce que l'effort nécessaire pour dire « Je rouvre la Bible le matin et je veux suffisamment suivre le Seigneur pour être intéressé à qu'est-ce qu'il me demande, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, qu'est-ce qu'il m'exige. » Trompez-vous pas. Le christianisme, c'est pas une game de loi où est-ce qu'on est appelé à cocher, à suivre sans arrêt, puis à dire, il faut que je fasse ça, c'est une task list. Là. C'est pas ça du tout. Mais d'un autre côté, ça demande un engagement. Et ce que Jésus veut, c'est non seulement pardonner gratuitement, mais que ceux qui le suivent soient engagés à le suivre sérieusement et à le suivre fidèlement. Ça coûte donc cher d'être un disciple, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Ce qui fait que n'importe quel chrétien aujourd'hui devrait se poser la question suivante. Considérant ma vie comme elle est normalement vécue, comme elle est vécue tous les jours, puis-je dire honnêtement que de suivre Jésus me coûte quoi que ce soit? Puis-je dire honnêtement que de suivre Jésus me coûte quoi que ce soit? Si la réponse est oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que l'Esprit-Saint aussi montre les facettes de nos vies qui doivent être réformées, qui doivent être corrigées pour suivre le Seigneur. Mais si tu te rends compte que tu rentres dans l'église le dimanche, tu ressors, qu'à longueur de semaine, il n'y a pas de changement substantiel qui s'opère dans ta vie, qu'il n'y a pas de moment décisif où tu es appelé à décider entre est-ce que je m'écoute puis je vais dans ma propre voie ou est-ce que je mets les priorités de Dieu en priorité. S'il n'y a pas de ces moments-là qui fait que tu peux vivre finalement ta vie, rouler ta bosse, faire carrière, faire ta vie tranquillement, sans que ça demande jamais aucun renoncement, il y a un problème. Parce que c'est en opposition à ce que nous dit le Seigneur. Troisième point, l'Éternel, le seul au sommet. Et on revient à notre texte ou au verset 5. Et je vais référer aussi au verset 7, juste un petit peu plus bas. Au verset 5, ce que Dieu nous communique, c'est quelle est la raison pourquoi il donne cette règle-là. Pourquoi est-ce qu'il veut absolument qu'on lui apporte les sacrifices à lui, à son lieu qui lui est destiné? Verset 5, c'est afin que les Israélites, au lieu d'immoler leurs sacrifices dans les campagnes, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel. Au lieu d'immoler dans les campagnes. Et au verset 7, l'Éternel va dire, ils n'immoleront plus leurs sacrifices au bouc. Au bouc. Dans les campagnes. Quand le peuple d'Israël sont arrivés en Égypte, ça n'a pas pris de temps avant qu'ils tombent en esclavage, qu'ils soient finalement une source de revenus vraiment, vraiment, vraiment pas chère pour les Égyptiens. Ça veut dire qu'ils gagnaient absolument rien puis qu'ils travaillaient à longueur de journée, 7 jours semaine, sous la grosse chaleur. Et dans cet esclavage-là, ils étaient donc inclus dans la société égyptienne. Dans la société égyptienne, il n'y a pas un seul dieu qu'on adore qui est seul et il n'y a rien d'autre. Il y avait plusieurs petits dieux locaux. Et dans le sud de l'Égypte, il y avait un de ces dieux-là qui est en forme de bouc, qui est représenté par un bouc. On a donc Israël qui vit pendant comme 400 ans en Égypte, qui adopte les pratiques spirituelles de la place, qui s'habitue à ça comme étant la normalité, et Dieu les sort d'Égypte. Dieu leur dit, venu le temps d'accomplir la promesse, je vous sors d'Égypte et je vous donne un pays. Je remplis ma promesse. Il est très réaliste de croire que les Israélites étaient confus, étaient embrouillés quant à leur conception spirituelle. Et que pour eux, un seul Dieu qui gouvernait tout et qu'il n'y en avait pas d'autre et que les autres étaient finalement des faux dieux, c'était pas évident à comprendre tout de suite. C'est aussi très probable que ces gens-là, les gens d'Israël, aient traîné avec eux des habitudes spirituelles erronées. Par exemple, le sacrifice au bouc. On voit que ces pratiques-là ont continué aussi à travers l'histoire d'Israël, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et si on regarde ça avec un peu de recul, regardez ce qui se passe. Israël mène une vie dans l'esclavage et sorti de cet esclavage-là par Dieu lui-même qui lui promet une vie meilleure et qui lui exige aussi de réformer ses comportements, de réformer sa manière de penser, de modifier sa manière d'agir pour faire de ce Dieu-là le centre de sa vie. Israël suit, traverse le désert, suit, mais garde des habitudes de vie de l'ancienne vie. Dans leur cas, il s'agit d'adorer des boucs, d'adorer d'autres divinités que Dieu lui-même et de sacrifier à ces divinités-là, qui est une désobéissance flagrante là, au premier commandement. Et la question que j'ai pour vous ce matin, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a des boucs dans votre vie? Est-ce qu'il y a de ces habitudes-là qui, une fois convertis, sont restés, se sont accrochés, desquels on est encore esclaves. Y a-tu de ces habitudes-là qui traînent comme des boucs en Israël et qui demandent qu'on ferme la porte et qu'on dise « Non, j'ai un Dieu maintenant. J'ai un seul et unique Dieu en qui je peux trouver une plénitude, en qui je peux trouver un épanouissement que ces boucs-là ne peuvent pas me procurer. » Et donc, c'est des entités démoniaques-là sont donc ce qui a nui à Israël, non seulement avant la sortie d'Égypte, mais aussi pendant et après la sortie d'Égypte. On voit des passages comme par exemple 2 Chroniques 11-15, aussi un passage dans Ézéchiel 23-8-21, plutôt aussi Josué 24-14, où cette habitude-là, malheureusement, elle est restée dans la vie d'Israël, d'adorer des dieux qu'ils ont adorés en Égypte et de refuser de fermer la porte à l'ancienne vie pour faire place à la nouvelle vie. Je vous encourage à faire exactement le contraire, à fermer la porte sur l'ancienne vie, aux habitudes qu'elle comprenait pour laisser place à la nouvelle vie. Fermez la porte au bouc, fermez la porte aux mauvaises habitudes qui datent d'une ancienne vie avant que Jésus soit venu vous chercher et réservez toute votre énergie, toute vous-même, à la nouvelle vie que Jésus veut que vous viviez maintenant. On parlera aussi d'une conséquence. Vous remarquerez dans l'Ancien Testament, il y a des passages où les conséquences d'une désobéissance sont assez flagrantes quand même. Dieu, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Dieu veut se faire comprendre clairement. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas, là, il y a affaire à un peuple qui est embrouillé spirituellement, qui c'est pas tellement comment comprendre le fait qu'il y a seulement un Dieu et que c'est lui seul qu'il faut adorer. Pourquoi je pourrais pas finalement adorer à gauche, à droite, n'importe quel Dieu, un peu comme si on s'échangeait des cartes de hockey finalement? Ce qui fait que Dieu doit être très clair dans aussi les conséquences qu'il communique à ce peuple-là. Conséquences aussi qui s'appliquent dans une certaine mesure encore aujourd'hui. Et la conséquence qui est soulignée, si finalement un Israélite s'obstine à adorer d'autres divinités que Dieu lui-même, d'autres divinités que l'Éternel. Un, cet acte-là, d'immoler, de tuer d'autres animaux pour d'autres dieux, il faut marquer le terme qui est utilisé, c'est verser le sang. N'importe qui va me dire, ben là, c'est évident, c'est sûr que si tu tranches la gorge de quelqu'un, il faut que tu t'attendes à une effusion de sang, il faut que tu t'attendes à quelque chose qui sort, qui est rouge, qui tache. Mais verser le sang dans ce verset-là, et aussi dans d'autres versets, comparatif, désigne le meurtre prémédité d'un être humain innocent. C'est fort quand même ce que Dieu va dire. C'est un peu comme s'il disait arrêtez d'assassiner, un peu comme des êtres humains, des animaux. Ce que Dieu nous communique dans ce passage-là, ce qu'il communiquait à Israël et l'impact qu'il veut donner, c'est que le fait de sacrifier à d'autres dieux, de commettre ce qu'il appelle l'idolâtrie, de ne pas l'avoir comme exclusivité dans sa vie, comme le centre, la chose la plus importante dans sa vie, la personne la plus importante dans sa vie, c'est comparable au meurtre en termes de gravité, au meurtre d'un être humain innocent. Et il y a donc des passages qui emploient ce même terme-là, Genèse 9-6, Nombre 35-33, par exemple, en sont deux exemples. Fait que vous voyez la gravité qu'il voulait aussi communiquer en Israël et qu'il nous communique aussi aujourd'hui. Le fait de ne pas avoir comme seul et unique centre de sa vie l'Éternel, le Dieu de la Bible, est d'une gravité immense comme crime. Et des conséquences vont donc suivre cet endurcissement-là. Des conséquences vont suivre pas au moment où quelqu'un tombe en se repentant. Pour ça, on l'a vu, il y a le sacrifice. Il y a le sacrifice qui permet à quelqu'un d'être pardonné de n'importe quelle faute. Mais quelqu'un qui s'endurcit à vouloir vivre dans un mode de vie où Dieu n'est pas le centre de sa vie, où Dieu est là, en périphérie, mais il y a aussi autre chose avec laquelle je peux interagir, d'autres dieux. Eh bien, la notion de retranchement, elle est introduite. Pénalité de retranchement. Quoique le texte ne mentionne pas dans les détails ce en quoi consiste ce châtiment, d'autres passages, par exemple, Exode 22, Josué 7-9, ça semble pour nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que c'était le retranchement en Israël. Ce que c'est, en fait, voici une définition que je vous propose assez courte, une exécution du coupable, c'est assez cru quand même, là, une exécution du coupable par Dieu lui-même. Le retranchement implique, en fait, d'être expulsé et banni d'Israël, donc d'être séparé pour toujours de son peuple, ça c'est une des choses. Il s'agira aussi d'être tué par Dieu en personne et d'être sous son jugement dans la vie à venir. Je ne suis pas un sadique, je ne me plais pas à dire des choses comme ça. Mais je ne peux pas faire autrement que de le dire parce que les textes bibliques montrent cette réalité-là perturbante, je l'avoue, mais quand même réelle, qui est le fait que Dieu ne tolère pas de ne pas être le roi souverain dans chacune de nos vies. Et les conséquences qui suivent une désobéissance, en Israël, elles étaient très concrètes. Tu étais chassé loin de ton peuple, de facto loin de tes amis, loin de ta famille, loin des gens qui t'étaient chers, et tu étais laissé seul dans le désert. À attendre, angoissé, jusqu'au moment où Dieu t'exécuterait d'une manière qui lui est propre. C'est raide, j'en consens. Mais tous les commentateurs vont dans cette direction-là et tous les versets bibliques qui concernent le retranchement là, vont dans cette direction-là aussi. Est-ce que l'objectif que je tiens, que je vais éviter, autrement dit, ce que je ne veux pas qu'il se produise en vous disant ça, c'est de dire « Dieu est un monstre moral qui fait bien ce qu'il veut. » Ce n'est pas ça que Dieu veut communiquer. Pourquoi? Parce que regardez au verset 7 ce qu'il dit. « Ils n'immoleront plus leur sacrifice au bouc. » Ils n'immoleront plus. Littéralement, ils n'immoleront pas encore leur sacrifice au bouc. Qu'est-ce que ça implique? Ils n'immoleront plus, ça veut dire qu'ils le faisaient déjà. Au moment où Dieu est en train de dire cette loi-là, il y a des Israélites qui sacrifient au bouc devant ou en périphérie de l'Éternel. Qu'est-ce que fait l'Éternel? Est-ce qu'il les condamne? Non. Il leur dit, OK, on va mettre carte sur table maintenant. J'ai des exigences. Je veux que tu vives en ma présence. Je veux que tu vives ce pour quoi tu as été créé. En ma présence, en me mettant au centre de ta vie. Mais ça va demander des habitudes de vie changées. Ce que l'Éternel ne fait pas dans ce passage-là, c'est qu'au moment où il y a désobéissance, il coupe la corde et c'est fini. Il prend le temps d'avertir. Il met un système en place pour que n'importe qui puisse trouver un pardon en lui. Pour que n'importe qui puisse dire, OK, ça suffit les boucs, on ferme la porte et on s'en va au temple de l'Éternel pour que les sacrifices lui soient donnés à lui. C'est un Dieu de grâce, mais qui a aussi des exigences. Et l'exigence qui est dit dans le texte, « Venez à mon temple pour être en relation avec moi. » Ceux qui viennent régulièrement savent que Benoît a prêché sur l'Évangile de Jean. Et au chapitre 2, sur lequel il a enseigné, Jean nous communique que Jésus se dit être le temple de Dieu. Que Jésus se dit être celui par qui on peut avoir une relation avec Dieu. Les exigences de l'Ancien Testament sont celles-ci en ce qui concerne le temple. N'importe quel sacrifice va être apporté au temple pour être en communion avec l'Éternel. Les exigences du Nouveau Testament, à quelques points près, sont presque identiques. Les sacrifices, en fait, il y en a un, et il est fait par Jésus-Christ lui-même, qui est le temple de Dieu, et c'est à travers son temple, c'est à travers lui qu'on a accès à Dieu. C'est à travers son sacrifice, fait par lui, qu'on peut avoir une communion, un accès gratuit à Dieu. Comparé aux Israélites de l'Ancien Testament, ça ne nous coûte plus rien parce que tout a été payé par Jésus. Contrairement aux Israélites de l'Ancien Testament, le fait d'être percuté moralement en massacrant des agneaux, ce n'est plus notre réalité. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix ultime pour qu'on puisse avoir accès gratuitement à Dieu. Mais avoir accès à Dieu, pas de n'importe quelle manière, en allant à son temple, en allant à Jésus, en qui on va trouver Dieu, en qui on va trouver une paix, une réconciliation, un pardon. Et si c'est la première fois que tu es ici, si tu n'as pas encore pris cette décision-là de faire de Dieu le centre de ta vie, je te communique que Dieu réclame le centre de ta vie et qu'il le réclame et t'invite à venir à Jésus. Pas avec tes bonnes œuvres, pas avec tes bons coups, mais seulement de venir à Jésus et à cause de son sacrifice, d'être réconcilié avec Dieu et d'être enfin en communion avec Dieu. de donner enfin à ton cœur ce qu'il recherche. On va prier pour finir. Seigneur Dieu, merci pour la grandeur du sacrifice que tu as donné. Merci pour le Lévitique qui nous permet d'apprécier l'immensité de ton sacrifice encore plus. Seigneur, donne-nous un cœur intéressé, un cœur brûlant pour ta parole, pour lire ta parole et pour y trouver, grâce aux lumières spirituelles que tu vas nous donner, d'être capable d'y trouver des vérités qui vont percuter nos vies, mais qui vont toujours nous montrer le Dieu de grâce et d'amour que tu es. Celui qui a des exigences, mais qui nous accompagne à travers ces exigences-là, à les accomplir et à trouver un esprit léger en les accomplissant, parce que tu prends sur nous nos jougs, nos fardeaux, et tu nous offres un joug qui est doux, un fardeau qui est léger. Et Seigneur, aide-nous à vivre une vie où tu es le centre. Montre dans chacune de nos vies cette semaine les boucs dans nos vies, les mauvaises habitudes qui datent d'une ancienne vie et qu'il faut qu'on mette de côté, auxquelles il faut qu'on dise à jamais pour te remettre au centre de chacune des facettes de nos vies. Accompagne-nous cette semaine, Seigneur, à découvrir comment tu es un Dieu de grâce, un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu compatissant qui nous souhaite dans sa vie aussi. Tu es un Dieu incroyable, tu es un Dieu souverain. Seigneur, merci de nous inclure dans tes plans. Amen.